Bonjour à tous. Le repos de cette nuit va nous permettre d'écouter avec attention les conférences et de participer aux ateliers de ce matin. Alors, j'ai la joie de présenter le père Frédéric Louzeau, qui a soutenu en 2006 une thèse de doctorat en théologie ainsi qu'une thèse en philosophie politique à l'École des hautes études en sciences sociales sur l'anthropologie sociale du père Gaston Fessard. Frédéric Louzeau est professeur de philosophie et de théologie à la faculté Notre-Dame depuis 2004. Il a été président de la faculté Notre-Dame de 2007 à 2013. Il est actuellement membre ordinaire de l'Académie pontificale de théologie. Et il a accepté de traiter un sujet spécialement d'actualité qui est la loi naturelle et démocratie pluraliste. Alors, nous l'écoutons avec beaucoup d'intérêt ce matin. Merci.
Alors, ce que je souhaiterais faire avec vous, pendant les trois quarts d'heure de conférence, c'est la chose suivante. Je voudrais partir, du point névralgique, du point le plus brûlant du débat, pour pas dire de l'affrontement, entre les sociétés démocratiques dans lesquelles nous vivons, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, et l'Église catholique. Donc voilà, je vais partir de ce débat-là. Vous savez sur quoi porte le débat, voire l'affrontement, c'est certaines législations. Donc si on veut simplement les rappeler, donc d'abord dans l'histoire des législations qui touchent à la dépénalisation de l'avortement. Je note également des législations légalisant l'euthanasie. Il y a maintenant des législations qui reconnaissent juridiquement l'union civile entre des personnes de même sexe. Et puis, il faudrait aussi noter toutes les législations qui autorisent la production puis la manipulation des embryons humains. Bon, tout ça est connu entre nous. Pour essayer de comprendre vraiment où se situe le débat et les enjeux, j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre une décision pour cette conférence. Il m'a semblé que nous pourrions travailler ensemble cette matinée un débat qui a eu lieu en l'an 2000 entre Joseph Ratzinger, qui était à ce moment-là préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et puis un philosophe italien qui s'appelle Paolo Flores d'Arche. Paolo Flores d'Arche. Alors, je ne présente pas Joseph Ratzinger ici, mais je présente Paolo Flores d'Arche parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse. C'est un homme qui est un Italien, né en 1944. Il est à la fois philosophe et journaliste. Comme philosophe, il est professeur d'éthique à la Sapienza à Rome, professeur dans une université, une grande université. Il a notamment publié quelques essais sur Hannah Arendt, entre autres. C'est un philosophe athée qui se revendique comme athée. Il est plutôt considéré comme de centre-gauche en Italie. Il est assez anticlérical, là aussi ouvertement. Et il est le fondateur et le directeur d'une revue italienne qui s'appelle Micromega, qui est une revue assez anticléricale, une revue, on pourrait dire, de libre-pensée. Revue que Joseph Ratzinger lisait à l'époque. Ça, on le sait, il lisait tous les numéros et il a estimé d'ailleurs que après la sortie de Fides et Ratio, c'est cette revue athée qui a donné le meilleur dossier sur le rapport foi-raison. Et il a accepté en 2000, Ratzinger a accepté un débat public dans un théâtre de Rome où, outre la salle remplie, on dit qu'il y avait plus de 2000 personnes dans la rue avec une rediffusion de ce débat. Débat très intéressant, à mon avis, plus vif qu'avec Habermas. Quand il y a eu le débat avec Habermas, un peu plus tard, c'est un débat très, très polissé, chacun fait sa communication, c'est impeccable. Bon. Tandis qu'avec D'Arche, il n'y a pas de communication, c'est un débat où il y a un journaliste de la télévision italienne qui les fait vraiment parler. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de manière beaucoup plus forte grâce à ça. Par ailleurs, je vous signale que vous avez dans votre dossier une feuille de route où j'ai mis des citations de ce débat que j'ai tirées de la seule édition française que nous ayons chez Payot. Donc Joseph Ratzinger, Paolo Flores d'Arche, Est-ce que Dieu existe ? Et les 80 premières pages sont la retranscription du débat. Donc, je vous ai mis les citations parce que c'est très. Je vais vous en faire des présentations, mais c'est important que, si vous le voulez bien, vous puissiez les regarder et vous-même réfléchir comment vous auriez répondu d'une certaine manière. Parce que, moi, je vais dire ce que j'en pense, mais je crois que c'est plus intéressant pour vous de vous-même réfléchir. Enfin, vous trouverez dans ce dossier, j'ai mis une petite annexe qui est l'homélie du cardinal 23, archevêque de Paris, pour une messe de rentrée des responsables politiques à. En octobre 2011. Et il se trouve qu'à ce moment-là, pourquoi je vous l'ai mis, à ce moment-là, dans la liturgie, on lisait le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, qui est un des fondements scripturaires de la loi naturelle. Et donc, il va expliquer à ces braves députés et sénateurs qui sont à la messe comment l'Église comprend ce passage et comment cela invite l'Église à un dialogue et une réflexion avec les hommes politiques. Et je trouve que c'est très clair et assez précis. Voilà. Donc voilà, je ferai trois parties dans ma conférence. Une première partie, je vais vous présenter les arguments que Paolo Flores d'Arquet oppose à la doctrine catholique de la loi naturelle. Parce que dans ce débat, il en est venu à cette question. Voilà. Et donc il donne beaucoup d'arguments qu'il faut d'abord enregistrer. Ensuite, je vous présenterai la réponse de Ratzinger. Réponse assez complexe, en fait, beaucoup plus fine qu'on imagine. Et puis après, dans une dernière partie, je ferai comme Édouard R., je ferai quelques propositions pour essayer d'aider le dialogue missionnaire que nous avons à entretenir, soit avec des responsables politiques ou soit avec des citoyens, en ce qui concerne la loi naturelle. Alors, je commence d'abord par les trois objections majeures que d'Arquet oppose à la doctrine de la loi naturelle. La première objection est un argument d'ordre historique, ou on pourrait dire d'ordre anthropologique. Je le résume. C'est que pour lui, il n'existe aucune loi naturelle repérable dans l'histoire. C'est un argument classique hein, dans l'anthropologie actuelle. Si on fait l'examen de toutes les sociétés que nous pouvons connaître, si on repère les différentes lois qui les structurent, et si on cherche un trait commun entre toutes ces lois, on ne trouve rien. Voilà. Si on fait l'enquête comme ça, on ne trouve rien. Donc, vous pourrez lire, il dit, il n'existe pas une seule loi qui ait été toujours admise par tous. Et il va un peu plus loin, il va jusqu'à dire que des hommes ont considéré comme bonnes, ou même comme des valeurs à poursuivre, des choses absolument différentes et même incompatibles entre elles. Et donc il cite par exemple le cas du cannibalisme rituel, qui a été considéré dans certaines sociétés comme un devoir, à la fois éthique et religieux. Et puis après, je ne l'ai pas mis ici, il évoque une pensée de Pascal assez complexe pour étayer son propos. Il y a un corollaire à cela qui est très intéressant. Il va jusqu'à dire, c'est la deuxième citation, même les droits de l'homme des sociétés modernes, ça va très loin, même les droits de l'homme qu'ont inventé les Lumières et les sociétés libérales modernes ne sont que des droits civils. Donc pour lui, même les grandes déclarations des droits de l'homme sont des lois civiles. On va pouvoir lire le deuxième passage. Ça va assez loin, mais j'essaierai d'en dire quelque chose quand je prendrai la parole moi-même. Voilà. Nous devons avoir le courage de reconnaître que les droits de l'homme sont des droits civils, ce qui ne les rend pas moins imprescriptibles, mais nous fait comprendre que pour s'affirmer, il y a deux ou trois siècles, ces valeurs ont eu besoin d'une forme de religion laïque qui a consisté à dire qu'elles étaient inhérentes à la nature humaine. Et regardez ce qu'il ajoute, en réalité, elles étaient si peu inhérentes, ces fameuses valeurs imprescriptibles à la nature humaine, que l'homme a vécu pendant des millénaires en les foulant aux pieds, et qu'il a fallu des luttes très dures, des sacrifices accomplis pendant des générations et des générations, pour les faire provisoirement reconnaître. Je souligne provisoirement. Voilà. Je pense que c'est important dans son argumentation. Donc voilà la première série d'arguments, qui est beaucoup plus sérieuse que nous ne l'imaginons. Deuxième argument, qui est, je pense, le plus profond, ou disons celui qui va nous emmener le plus loin, qui est un argument d'ordre, cette fois-ci, philosophique. D'Arquet dit à Ratzinger, la nature, mais cette fois-ci au sens du cosmos, de l'univers, ne délivre aucun message moral ou humain. Donc vous pouvez contempler la nature, les étoiles, l'univers, vous n'y trouverez aucun, cette nature ne porte en elle intrinsèquement aucun message qui pourrait aider l'homme à régler sa vie de manière juste. Alors, il faut que je décode cette affaire-là, parce que il faut bien comprendre que derrière, il y a des questions que je trouve vraiment profondes et qui sont aujourd'hui les nôtres. Donc vous voyez, ce qui est problématique pour Darquet, ce n'est pas simplement l'existence d'une loi naturelle qu'il récuse, mais ce qui est aussi problématique pour lui, et je ne crois pas que pour lui, c'est la traduction de cette loi. Si cette loi existe, comment est-elle traduite ? Son expression dans un langage humain, vous voyez. Comment on y a accès ? Alors, à supposer que la loi naturelle existe, en fait, il y a une triple question qui est posée par Darquet que je vous précise. Quel est le contenu, pour lui, la question c'est d'abord quel est le noyau de valeurs communes inaliénables, c'est-à-dire quel est le contenu de cette loi naturelle ? Est-ce qu'on pourrait le préciser ? Deuxième question, qui est aussi philosophique, sur quelle base peut-on définir ces droits inaliénables de la nature humaine ? Alors sur quelle base, je précise un peu parce qu'il n'est pas assez précis dans son texte, ça veut dire, mais quels sont les points de référence dans la réalité autour de nous, sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour avoir accès à la loi naturelle ? Donc quels sont les points de référence ou les domaines de la réalité ? Et puis j'ajouterai ce qu'il ne dit pas, et ensuite une fois qu'on a délimité ces domaines de la réalité, quels sont les langages qui permettent d'extraire de ces domaines vous voyez, une éthique commune, une éthique universelle. Troisième aspect de la question, et enfin, qui établit ces valeurs inaliénables ? C'est une question, je crois, très importante, vous voyez, qui touche à ce qu'on appelle l'autorité interprétative de cette loi naturelle. Donc, vous voyez, le contenu, les domaines de la réalité, le langage que l'on emploie pour en trouver le sens, et enfin l'autorité. Alors, une des solutions traditionnelles à la question 2 sur les domaines de la réalité pour trouver la loi naturelle, une des solutions traditionnelles à cette question est de fonder la loi morale sur la nature, mais comprise ici comme univers, comme cosmos. Donc vous voyez, une des solutions traditionnelles dans l'histoire de l'humanité, c'est de supposer qu'il y a une harmonie entre l'ordre cosmique auquel nous appartenons et l'ordre, on pourrait dire, plutôt éthique, social, culturel, auquel nous appartenons comme hommes. Bon. Les pères de l'Église ont fait le choix de s'arrimer à une notion grecque reprise par le stoïcisme, qui est la notion de nature au sens de physis, la notion grecque. Ce terme est apparu au père de l'Église comme un concept rationnel opératoire pour essayer de traduire philosophiquement et pour les cultures dans lesquelles il baignait un des concepts majeurs de la révélation qui est le concept de création. Et c'est pour cette raison que le mot nature est entré dans le vocabulaire de la théologie et même du magistère, dira Ratzinger, en tant qu'indication de l'élément philosophique mais qui est séparable en lui-même, le cas échéant, d'une vision plus profonde de la foi. C'est cette solution traditionnelle qui fonde la loi morale sur le cosmos, alors ce qui est le cas en Chine avec la question du Tao, ce qui est le cas en Inde avec l'affaire du Dharma, c'est vraiment une solution extrêmement traditionnelle, très profonde, qui nous vient du fond des âges. Mais c'est cette solution traditionnelle qui fonde la loi morale sur l'univers qu'avec beaucoup d'autres, Darquet rejette. Voilà. Pour lui, l'univers ne porte aucun message. Je veux dire aucun message qui soit significatif pour la conduite des choses humaines. C'est-à-dire qu'on peut toujours, évidemment, mettre l'univers sous équation, mais en quoi ces équations auraient quelque chose à nous dire ? Oui, on peut mettre l'univers sous des équations, mais en quoi ces équations ou cette rationalité scientifique auraient quelque chose à nous dire pour conduire notre vie de manière juste ? Pour lui, la nature en elle-même est muette. Ce n'est pas elle qui parle, ce sont les hommes qui réfléchissent et qui, contemplant la nature, ou plutôt essayant de la comprendre, trouvent des résultats. c'est-à-dire introduisent une rationalité qui n'y s'y trouve pas. Et Darquet donne deux raisons à cette option un peu radicale qui sépare la nature, c'est-à-dire le cosmos, de l'éthos humain, de la vie humaine. Alors les deux raisons que donne Darquet sont les suivantes. D'une part, la science actuelle affirme que l'évolution de l'univers n'était pas établie a priori. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scientifiques montrent que dans l'évolution de l'univers, depuis le Big Bang, il y a eu des alternatives possibles et que rien n'était inscrit à l'avance, vous voyez. Donc, vous voyez, pour lui et pour les scientifiques actuels, une absence de finalité de l'évolution. Et donc, par là, une absence de sens, de raison du cosmos. Et deuxième argument qu'il donne, et qui est très fort, c'est que l'idée qu'il y ait des valeurs morales qui soient inscrites dans la nature et dictées par le cosmos, dictées par l'univers, et non le résultat d'un choix humain, que cette idée-là est une idée déresponsabilisante pour l'homme. Très fort, hein. Je le cite à un moment, ou en tout cas je le résume, c'est parce que nous sommes totalement responsables des valeurs inaliénables et qu'elles ne reposent en définitive que sur nos épaules, dit-il, que nous pouvons les défendre avec intransigeance. Si elles étaient déjà inscrites dans la nature, cela nous déresponsabiliserait. Donc vous voyez, ici, il oppose la liberté humaine à un autre ordre ou une ordination qui la précéderait. Troisième objection, c'est une objection qui relève, on pourrait dire cette fois-ci, vraiment qui est de la philosophie politique et juridique, et vous allez voir que celle-là, je pense, elle est une des plus difficiles à résoudre. On pourrait dire que c'est vraiment une objection politique. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'une des questions philosophiques posées par lui était « Qui établit les valeurs dites inaliénables ?» Quelle est l'autorité interprétative légitime? Cette question philosophique devient brûlante quand on cherche à la traduire dans le champ politique et juridique, je veux dire dans la vie commune des démocraties. Qui détermine entre nous les fondements moraux communs que le droit va imposer à chacun, quelles que soient ses options religieuses, philosophiques? Et notamment, donc je crois que c'est une question sérieuse, Darquet estime que la prétention d'identifier à une loi naturelle une morale particulière, celle d'un groupe social particulier, un groupe religieux, même si cette morale est noble et élevée, porte en elle tous les risques d'intolérance. Donc ça, c'est ça la troisième objection, c'est qu'au fond, il dit, évidemment, ce qui est visé derrière, ce sont les catholiques, plus que tout autre. Mais vous voyez, derrière l'expression « une morale particulière qui risque de vouloir s'imposer à tous », même par la force, bien sûr, il vise la foi catholique. Alors, je vais essayer de bien expliquer cet argument. C'est parce que la foi catholique affirme, selon Darquet, que la raison droite ne peut jamais entrer en contradiction avec ce qu'énonce la foi, qu'elle est porteuse d'intolérance dans la vie publique. Et il martèle ce point pendant tout le débat. Et dans d'autres livres. Donc il dit à un moment, c'est de ce postulat qui identifie la foi et la raison que naissent tous les conflits possibles. Quand la foi prétend être l'accomplissement de la raison, cela peut conduire à des conflits irréductibles et à des risques d'intolérance. Donc, vous voyez, c'est la question du rapport foi-raison qui est derrière. D'ailleurs, contrairement à Habermas ou à Jean-Marc Ferry, en France, Darquet défend une position laïciste très stricte, selon laquelle les religions sont incapables de s'insérer dans le débat public démocratique. Pour une raison, c'est en raison de ce qu'il appelle leur dogmatisme congénital. Donc vous voyez, pour lui, la pensée dogmatique de l'Église n'est susceptible d'aucune traduction, on pourrait dire, acceptable dans les termes de la raison publique. Dans les débats. Alors, je pourrais dire plus de choses, mais je m'arrête là pour cette première partie. Je voudrais maintenant vous survoler, malheureusement, la réponse de Ratzinger. Mais j'ai donné beaucoup d'éléments dans la feuille de route qui vous permettront de retrouver. La première réponse que va donner Ratzinger, c'est la réponse à l'argument historique. Et je trouve cette réponse très instructive, de voir comment Ratzinger opère. Il appuie sa démonstration sur un exemple historique. On lui parle d'histoire et de complexité de l'histoire, alors il va partir d'un exemple de l'histoire qui est l'expérience nazie en Allemagne, qu'il a connue, dont il a souffert dans sa jeunesse, et les décisions du tribunal de Nuremberg en 45-46. Donc il va réfléchir là-dessus. Mais c'est un argument très puissant, vous voyez, à l'adresse d'un antifasciste déclaré comme les Darquet, vous voyez. Parce que Darquet fait partie de ces mouvements politiques qui voient des fascistes partout. Bon. Alors il va partir du fascisme. Et il va montrer sur quoi portait l'inhumanité du nazisme et comment un tribunal international a pu légitimement, au sens de moralement, juger cette inhumanité. Donc là, on va lire, je pense que c'est le mieux de lire ce que j'ai mis sur la feuille. Donc c'est la première citation. « Nous autres Allemands, nous avons décidé qu'il y avait des vies qui n'avaient pas le droit d'être vécues. Et en conséquence, nous avons prétendu avoir le droit de purifier le monde de ces vies indignes pour créer la race pure et l'homme supérieur du futur. » Et là, le tribunal de Nuremberg, après la guerre, a déclaré à juste titre « Il y a des droits qui ne peuvent être mis en discussion par aucun gouvernement. Et même si c'était un peuple entier qui le voulait, cela resterait malgré tout une injustice. » Et c'est pour cette raison qu'on a pu condamner à juste titre des personnes qui avaient appliqué les lois d'un État, lois qui, sur le plan formel, avaient été correctement promulguées. D'où la conclusion, c'est-à-dire qu'il existe des valeurs intangibles, et je pense que nous le devons aussi justement aux Lumières, à la Déclaration des droits de l'homme imprescriptible, et qui valent pour tous, en toutes circonstances. Cela a été un très grand progrès pour l'humanité, et ce progrès, nous ne devons pas accepter qu'il soit perdu. Finalement, vous voyez, pour Ratzinger, l'argument historique, ça marche, oui ? Ça marche à éclipse, j'ai l'impression. Alors, l'argument historique de Darquet et de bien d'autres anthropologues n'enregistre qu'un fait statistique. C'est un fait statistique et qui donc, en plus, est sujet à des modifications indéfinies au fur et à mesure qu'on fait des enquêtes ethnographiques, vous voyez. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'il n'existe aucune chose considérée par une civilisation comme un crime qui n'était considéré dans une autre comme une valeur à mettre en œuvre? Voilà la question que pose Ratzinger. Quoi qu'il en soit de la vérité de toutes ces affirmations et de ces enquêtes, je vous dis qu'ils sont indéfinis, ce fait statistique demande à être discerné. C'est ça la question. Ce fait statistique, qui est, je crois, réel, la multiplicité des lois humaines et leurs contradictions, manifeste surtout le problème, ou on pourrait dire même le drame de l'histoire humaine. C'est-à-dire la faillibilité de l'être humain ou de l'humanité. C'est cela que ça illustre d'abord. J'en viens maintenant à la réponse à l'argument philosophique. Je vous rappelle qu'il y avait un triple argument. Un argument sur le contenu, quel est le noyau de valeur. Un argument sur les domaines de la réalité et les langages de l'être, sur quelle base on définit tout cela. Et un troisième sur l'autorité interprétative légitime. Qui établit ? Dans le débat qui est là, Ratzinger a répondu surtout à la deuxième question. C'est là-dessus, et c'est là-dessus que je vais faire aussi porter ma réflexion, qui est la plus décisive du point de vue philosophique. Sur quelle base définir les valeurs morales universelles ? Vous savez que la réponse de la foi catholique est la suivante, c'est que le fondement de ces droits de l'homme se trouve dans la création. Et plus exactement, il faudrait dire dans la création par le Logos. Vous connaissez ces phrases du prologue de Jean ou de saint Paul aux Colossiens. Hein. Tout a été créé par le Logos, en lui, pour lui. Et le cœur de ce donné de la révélation, c'est que la création, puisqu'elle est habitée et animée par ce Logos de Dieu, cette création, elle parle de Dieu et elle parle de l'homme. Elle parle, la création. Et d'ailleurs, cette donnée révélée appartient aussi bien au Nouveau qu'à l'Ancien Testament. Et ce point capital de la foi entraîne une conviction philosophique fondamentale que je vais expliquer, qui est, et sur lequel vraiment Ratzinger insiste, non seulement devant Darquet, mais devant plein d'autres, qui est la suivante, qui est la priorité de l'esprit et de la raison sur l'irrationnel. La priorité de l'esprit et de la raison sur l'irrationnel. Je vous propose de lire, dans la page 2, un extrait d'une conférence que le cardinal avait fait quelques mois avant le débat avec Darquet, et c'était d'ailleurs déjà une réponse à Darquet, à la Sorbonne, un texte exceptionnel qui s'appelle « Vérité du christianisme ». Et donc je vous lis un tout petit extrait. « In principio erat verbum », au commencement de toutes les choses, et voilà comment il traduit, « il y a la force créatrice de la raison ». Je ne sais pas si vous auriez traduit comme ça le début du prologue de Jean. La foi chrétienne est aujourd'hui comme hier l'option pour la priorité de la raison et du rationnel sur l'irrationnel. Cette question ultime ne peut plus, comme il a été dit, être résolue au moyen d'arguments tirés des sciences naturelles. Et même la pensée philosophique elle-même se heurte à ses limites. En ce sens, on ne peut fournir de preuves dernières de l'option chrétienne fondamentale. Au commencement était le logos. Mais la raison peut-elle finalement, sans se renier elle-même, renoncer à la priorité du rationnel sur l'irrationnel, à l'existence originelle du logos? Par son option en faveur du primat de la raison, le christianisme demeure aujourd'hui encore rationalité. Et je pense qu'une rationalité qui se débarrasse de cette option devrait signifier, contrairement aux apparences, non point une évolution, mais une involution de la rationalité. Vous voyez, c'est cette option philosophique fondamentale qui est aux yeux de Ratzinger le point philosophique crucial actuel du débat sur la loi naturelle dans les démocraties contemporaines. Avant de savoir sur quel domaine de la réalité on va chercher à extraire des valeurs inaliénables et par quel langage, par quelle rationalité on va procéder à cette extraction, le point le plus fondamental réside dans la rationalité ou non du monde comme de l'existence humaine. Et probablement, en tout cas des penseurs comme Jean-Luc Marion et d'autres, pensent qu'il faut alors, pour arriver à surmonter en quelque sorte cette crise, il faut dialoguer avec Nietzsche et Heidegger, qui eux remettent précisément en cause, d'une certaine manière, la rationalité du monde et de l'existence humaine. Mais je ne m'en occupe pas aujourd'hui. Une fois posée cette option de la rationalité du monde comme de l'existence, qui est déjà donc problématique pour beaucoup de personnes, une autre question très vaste va être de savoir avec quelle philosophie l'intelligence de la foi doit travailler. Quels sont les éléments de ces philosophies qu'elle doit emprunter, quitte même à les transformer de l'intérieur, comme elle l'a toujours fait dans son histoire. Comme il a été dit plus haut, les pères des premiers siècles ont trouvé dans la notion grecque et stoïcienne de physis une traduction philosophique susceptible de traduire, pour la rationalité de l'époque, la notion de création. Mais Ratzinger suggère, vous verrez le texte, que cet élément philosophique de la physis, susceptible de traduire cette notion de création, que ce concept-là n'est pas lié intrinsèquement à la foi chrétienne. Ce concept de physis n'est pas lié intrinsèquement à la foi chrétienne et qu'il peut éventuellement devenir insuffisant. Il n'a pas dit qu'il faut le jeter d'ailleurs, il a dit qu'il peut devenir insuffisant. Alors je vais essayer de dire dans la dernière partie de mon exposé en quoi effectivement ce concept de physis est devenu insuffisant pour traduire cette rationalité intrinsèque de la création. Et comment on pourrait compléter ce concept. Ratzinger n'en dit pas vraiment beaucoup plus dans ce débat avec Darquet. Il reconnaît que la manière d'identifier les valeurs inaliénables... Vous voyez, Ratzinger ne reconnaît que la manière d'identifier ces valeurs inaliénables, c'est une question très difficile, en fait. Très difficile. Mais il ne précise pas, il ne donne pas de réflexion. Il dit simplement deux points, puis je vais terminer par là, la partie de Ratzinger. Il dit que la nature comme univers ne doit pas être canonisée comme loi naturelle. La nature comme univers ne doit pas être canonisée comme loi naturelle. Nous ne pouvons pas dogmatiser des résultats qui viennent des sciences naturelles. Ce n'est pas possible. Et il ajoute un deuxième argument, que que la nature ne peut d'autant moins être canonisée comme loi naturelle que règne actuellement sur les esprits la théorie de l'évolution. Vous voyez, si vraiment vous posez un regard sur l'univers qui est marqué par la théorie de l'évolution et la sélection naturelle des espèces, si maintenant vous essayez de le traduire en termes éthiques, je vous dis, vous voyez à quoi ça arrive. Mais des choses terribles. Hitler, dans Mein Kampf, faisait des références quasiment explicites au darwinisme. Engels aussi, du côté marxiste. Donc on peut comprendre que... On peut comprendre la réserve que l'on peut avoir par rapport à, vous voyez, une loi du cosmos qui se traduirait ensuite dans une loi éthique. Pour autant, la considération de l'univers ne doit pas être supprimée comme ça nous a été exprimé. Enfin, la réponse à l'argument de politique et juridique, comment détermine-t-on ensemble une éthique universelle dans une démocratie pluraliste ? Dans ce débat-là, Ratzinger et Darquet n'apportent pas de réponse. J'essaierai de vous montrer que dans d'autres débats, notamment avec Habermas, il y a des propositions qui sont faites par les deux penseurs. J'en viens maintenant pour terminer une dernière partie sur des propositions pour le dialogue missionnaire. Parce que vous voyez, je vais vous relire Romains 2, 14, 16, qui est, vous savez, le fondement néo-testamentaire le plus fort. C'est pas le seul, mais c'est quand même un des plus puissants pour la loi naturelle. Et à partir de là, je vais vous dire quelque chose. Quand des païens, donc je cite saint Paul, Romains 2, 14, 16, quand des païens sans avoir de loi font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leur jugement intérieur qui tour à tour les accuse et les défend. Et c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement caché des hommes. Donc moi, ce que je comprends, c'est dans ce passage-là des Romains, en fait, saint Paul veut inviter le juif fidèle à sa Torah. Donc il veut inviter le juif fidèle à la Torah à ne pas juger le païen. Ne le juge pas, Dieu lui-même le conduit par cette loi qu'il a inscrite dans son cœur. Donc en fait, c'est une invitation d'ailleurs aux juifs comme aux chrétiens de ne pas juger le païen. Dieu le mène par cette loi, vous voyez, Dieu le guide. Et donc, il me semble que pour nous chrétiens, la loi de la charité, cette fois-ci la loi nouvelle, elle consiste à essayer de retrouver et d'aider ces païens à écouter cette voix intérieure et de voir rationnellement comment Dieu les conduit. Et si aujourd'hui la doctrine classique de la loi naturelle n'est plus compréhensible par les raisons de nos frères, de ceux avec qui nous vivons, alors il faut chercher autre chose. Alors il faut se mettre au travail pour trouver, vous voyez, pour savoir comment on peut guider rationnellement, hein, dans un dialogue de vérité, des personnes vers cette vérité qui est présente en eux. Ça marche. Bon. Alors, ayant dit cela, je vous propose quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, toute une série de réflexions que j'ai appelées purification théorique et pratique. Ça, c'est vraiment pour nous, les chrétiens. Je pense qu'il y a des purifications à vivre pour entrer dans ce débat démocratique et pour aider nos concitoyens à réfléchir. Petit a, ne pas projeter la conscience chrétienne de la loi nouvelle sur la conscience païenne de la loi naturelle. Je crois que trop souvent, nous avons tendance à projeter le dispositif de la loi nouvelle, donc la grâce de l'Esprit Saint, comme élément premier, et puis comme élément second, les préceptes du Christ. Ben, nous avons conscience, trop tendance à projeter ce dispositif sur une conscience qui n'est pas chrétienne. Et notamment, je crois qu'il y a une véritable différence entre le rapport de la conscience chrétienne à la loi et le rapport de la conscience païenne à la loi naturelle. Il y a deux différences que j'ai essayé de dire ici. C'est d'abord l'hétéronomie des lois morales pour le païen. C'est-à-dire que, en fait, pour un païen, toute loi morale qu'elle vienne, qu'elle soit une loi positive, comme on dit, civile, ou qu'elle soit même une loi que nous, nous disons dérivée du droit naturel, pour eux, tout vient toujours de l'extérieur. Tout. Pour eux. Et c'est ce que manifeste clairement la position de Darquet vis-à-vis des droits de l'homme qu'il apportait par les Lumières, dont il dit que ce sont des droits civils. Parce que précisément, vous voyez, concevoir la, on l'a dit plusieurs fois ici, je crois que Waltraut a cité un texte de Bouillard, concevoir la loi naturelle comme un ensemble de contenus fondamentaux rattachés à la conscience et qui s'opposeraient à des lois civiles ou issues de la contrainte sociale, c'est toujours projeter dans une conscience païenne l'image que la conscience chrétienne a d'elle-même. Je peux vous citer aussi, je vous ai mis dans le texte, je pourrais vous donner notre cardinal Ratzinger dit exactement la même chose. Si nous concevons la loi naturelle comme une espèce d'ensemble de contenus qu'on pourrait circonscrire, on passe à côté de ce qu'est la loi naturelle. Et la deuxième différence, c'est que la loi naturelle est un sommet pour une conscience païenne. C'est pour des héros, hein, la loi naturelle. C'est très intéressant dans les documents ecclésiaux ou même autres, quand on parle de loi naturelle, on prend toujours comme exemple Antigone ou Socrate. Mais c'est quand même des attitudes absolument héroïques qu'ont vécu ces personnes, vous voyez. Donc pour les païens, la loi naturelle, c'est un sommet, tandis que pour nous, chrétiens, c'est une limite minimale. Donc nous savons que si nous tombons en dessous, nous ne sommes plus dignes de la condition humaine. Nous ne nous comportons même pas comme des chrétiens, mais comme des hommes. Donc ça, c'est la première purification. Et la deuxième purification, c'est ne pas donner le sentiment que l'Église ou les chrétiens veulent imposer à tous une morale ou une solution particulière aux questions éthique et politique. Je crois que le fait que le magistère de l'Église soit le garant et l'interprète de la loi naturelle, comme il a été dit hier, ne qualifie pas ce magistère ni aucun chrétien pour fournir des solutions concrètes aux problèmes politiques, ni même à celui des fondements moraux de la démocratie. Et alors, pour vous en convaincre, il faudrait lire le discours que Benoît XVI a prononcé à Westminster et qui sera travaillé dans l'atelier de François Régis cet après-midi. Parce que dans ce discours, il dit deux choses. Il dit « Les hommes sont capables, par l'exercice de leur raison, de trouver les principes qui leur permettent de régler harmonieusement leur vie commune. » Sous-entendu, ce n'est pas aux religions de donner aux États démocratiques les fondements moraux de leur existence. Ils sont capables, on ne sait pas s'ils le feront, mais ils sont capables de le faire. Et le rôle des religions, et notamment de la religion catholique, on l'a entendu hier, c'est d'aider à purifier la raison. Alors ça, si on veut, dans le débat, on pourra essayer de s'expliquer sur cette expression qui peut faire très peur. Vous imaginez, Monseigneur 23 arrivant au Sénat et disant « Je suis venu purifier votre intelligence ou votre raison. » On pourrait ajouter que l'Église aussi peut tirer de la révélation chrétienne les lois fondamentales du dialogue entre les hommes, en le faisant dériver du dialogue entre Dieu et l'humanité, et aider à mettre en œuvre. Bon, il faudrait développer plus. J'en viens à mon deuxième point qui est le plus important, c'est ça vraiment que je voulais laisser ici, que j'ai appelé « Chercher par où et comment la lumière de la vérité peut entrer dans l'intelligence des citoyens contemporains ». Parce qu'au fond, c'est quand même ça la question. C'est ce que je me suis dit quand même à propos des débats et des manifestations de l'année dernière. C'est quand même, il y avait une petite fraction de la France, des citoyens français qui étaient contre cette loi, qui voyaient les enjeux, en tout cas, voilà, qui pouvaient en expliquer. Il y avait une toute et infime petite fraction militante de l'autre côté. Et puis au milieu, il y avait un espèce d'immense ventre mou, mais la grande majorité de nos concitoyens qui ne voyaient pas les problèmes. Et je me suis dit, mais comment on peut faire pour aider ces concitoyens qui votent, qui forment l'opinion publique à réfléchir, tout simplement. C'est ça que... Comment on aide les personnes à réfléchir? C'est un acte évangélisateur. Et j'étais très intéressé par ce qu'a dit Édouard R. hier. On voyait bien que dans sa réflexion, en parlant de Freud, en parlant de toutes sortes de choses, qu'il y a une... Je crois qu'Édouard le vit comme ça, qu'il y a une volonté de ne perdre aucun ray de lumière rationnelle dans l'expérience humaine, qui peut nous aider à réfléchir ensemble. Alors, Par où et comment la lumière de cette vérité peut pénétrer dans l'intelligence des contemporains? C'est la question des langages de l'être, en fait. Premier point, la considération de la nature au sens de l'univers n'est plus suffisante. Parce que, pour deux raisons, d'une part parce que la raison humaine est la plupart du temps réduite à la raison scientifique, et que de la raison scientifique, il ne sort aucun message moral, ça c'est vrai. Et deuxièmement, parce que la réflexion actuelle sur la nature est réduite à une doctrine de l'évolution. Notamment cette fameuse sélection naturelle des espèces. Alors je propose deux autres lieux, deux autres réalités qui permettent, il me semble, d'ouvrir l'intelligence à ces fameux fondements moraux inaliénables. Tout d'abord, ce que Ratzinger lui-même, c'est pas moi qui ai inventé ce mot barbare, appelle l'interculturalité. Pas très joli, l'interculturalité. Ou s'ouvrir au dialogue avec les sources de la culture. C'est un point qui est fondamental dans la pensée de Ratzinger. C'est l'objet principal de son dialogue avec Habermas en 2004. Ce qui semble mettre en crise les fondements éthiques des sociétés démocratiques actuelles, c'est le pluralisme culturel et religieux. Nous sommes des sociétés habitées par des citoyens qui ont des références éthiques et religieuses différentes. C'est plus homogène, si vous voulez. Je crois, et je ne vois pas dans les années à venir que ça le redevienne. Parce que dans les endroits du monde où ça redevient homogène, vous savez comment ça se passe. C'est ce qui se passe, par exemple, en Centrafrique, par purification ethnique. Donc, il n'y a absolument pas... Vous voyez. Ce qui a mis en crise le fondement éthique des sociétés démocratiques, pour Ratzinger, est aussi et plus profondément le lieu où doivent se rechercher les solutions. C'est là où il y a des difficultés qu'il faut se retrouver. Et je crois que c'est un lieu d'évangélisation absolument central. En tout cas, pour lui, ça l'est. Ce dialogue des cultures présentes dans un même espace politique exige deux choses. Exige d'abord que la raison, on pourrait dire séculière, européenne, et la rationalité chrétienne s'ouvrent mutuellement l'une à l'autre. C'est-à-dire que on pourrait dire les tenants aujourd'hui en France des Lumières, de ces courants-là, et les théologiens et les penseurs chrétiens décident vraiment de se parler. Et notamment que nous, chrétiens, nous soyons capables d'exprimer les vérités que la foi nous a fait découvrir sur l'homme dans des termes qui soient accessibles à la raison publique. Ça, c'est la première condition du dialogue. La deuxième condition, c'est que la raison occidentale, on va dire la raison des Lumières, et la raison chrétienne consentent aussi à une corrélation avec les autres cultures qui sont différentes. Alors évidemment, tout cela, le cardinal n'en parle pas avec Habermas, mais il en parle dans d'autres lieux. Ça suppose que s'opère un travail de discernement et de purification des cultures elles-mêmes. Pour mettre en lumière la part de vérité qui est présente en chacune d'elles. Et là, alors, la question qui est redoutable derrière est la suivante, c'est comment la société civile, puis d'ailleurs l'État, peuvent mettre en œuvre un tel dialogue? Ça, c'est une autre question qui relève de la réflexion proprement politique. Bon, il y a eu une petite timide tentative en France, puisqu'on a vu Thibault Collin qui était là avec nous hier, avec le cardinal, avec le rabbin Bernheim, avec je ne sais plus quel pasteur. Il y avait des représentants des différentes religions qui ont été auditionnés. Alors, c'est pas grand-chose, mais bon, on commence. C'est très différent, je crois, en Allemagne, où dans la Constitution même, l'Église a sa part même dans la réflexion publique. Donc c'est une question complexe, je ne sais pas comment ça va évoluer en France, mais nous, chrétiens, nous pouvons déjà prendre des initiatives, me semble-t-il. Nous en prenons déjà, jusque dans la vie paroissiale ordinaire. Petit C, et j'achève, qui est la prise en considération de l'histoire. Donc, j'ai parlé des cultures, mais l'histoire est aussi... voilà. Je crois, au fond, peut-être plus importante que tout. À plusieurs moments, dans son débat avec Paulo Flores d'Arquer, Ratzinger répond à son interlocuteur, il réfléchit à partir d'événements historiques. Pas à partir des idées ou des théories, mais d'abord des événements. Cela veut dire que l'homme apprend des choses essentielles sur lui-même et sur Dieu en réfléchissant à des événements et des paroles qui font la trame de l'histoire. Je prends un exemple. Comment l'humanité a-t-elle pris conscience de l'injustice intrinsèque du système de l'esclavage et de la nécessité de l'abolir juridiquement? Il me semble que la considération du message de l'univers n'a pas suffi à provoquer cette prise de conscience. Ce n'est pas dans l'univers que l'homme a lu ça. Et ni la philosophie grecque, ni la pensée stoïcienne ne sont venus à bout de l'esclavage. C'est à travers des événements historiques, à commencer peut-être par la révélation juive, puis la révélation chrétienne. C'est à travers des paroles prononcées dans l'histoire, c'est à travers des souffrances, c'est à travers des luttes que les consciences ont pu découvrir l'inhumanité de l'esclavage. Mais quel travail il a fallu, vous voyez. Je viens de lire un livre que je vous conseille, qui est intéressant, consacré à Lincoln, une biographie du président Lincoln aux États-Unis. Mais quel travail, et puis vous savez, quel travail pour parvenir à inscrire dans les lois américaines l'abolition de l'esclavage. Vous savez que ça s'est quand même soldé par une guerre épouvantable. Donc vous voyez, comment la conscience humaine a-t-elle pu découvrir que le système même de l'esclavage, indépendamment des violences et des tortures, était profondément inhumain? C'est l'histoire, c'est dans les événements historiques. Encore ce résultat, d'ailleurs, n'est-il pas partagé par tous encore aujourd'hui dans le monde? Et il est sans cesse menacé. Autrement dit, je vous ai mis des textes de Ratzinger là-dessus, il existe un lien intrinsèque entre la raison humaine et l'histoire. Et la raison humaine a besoin de l'aide de l'histoire pour dépasser ses blocages historiques. Autrement dit, je conclus ce point-là, l'histoire est un domaine de l'être, je dis bien un domaine de l'être, où résonne la voix de la vérité, comme le sont aussi la nature, au sens de l'univers, et la raison humaine. L'histoire est un domaine de l'être où résonne la voix de la vérité comme le sont la nature et la raison humaine. Et je trouve que dans l'Église catholique, je termine par là, mais c'est une voix que nous n'avons pas beaucoup, en fait, aujourd'hui, beaucoup explorée, alors que notre révélation est historique et que la Bible ne cesse de nous raconter des histoires. Apparaît alors une double question immense, que c'est plutôt pour les professeurs ici et les étudiants, mais comment appréhende-t-on le sens véritable de l'histoire? Comment interprète-t-on l'événement du nazisme et de Nuremberg, du tribunal de Nuremberg? Comment appréhende-t-on l'histoire? C'est la question des langages de l'être qui est ici, mais appliquée au domaine des événements historiques. Est-ce qu'il y a un message de l'histoire? Et s'il existe, comment le trouve-t-on? Comment l'extrait-on? Et je crois que ce qui est en jeu, c'est vraiment une réflexion à la fois théologique et ontologique. Comment parvient-on à une synthèse entre ces trois domaines de l'être que sont la nature, au sens de l'univers, la raison humaine et l'histoire? Très peu de penseurs chrétiens se sont engagés dans cette réflexion. Il y a là un chantier immense. Moi, je travaille le professeur qui, lui, a essayé de porter cette question pendant 50 ans. Mais il me semble que la plupart des questions soulevées par les démocraties libérales tournent autour de ce problème, de l'articulation de la nature, la raison et l'histoire. Conclusion, j'en reviens aux fameuses lois qui fâchent dont je suis parti. Quoi qui fâche, qui nous fâche. Et qui nous fâche à juste titre. L'opinion commune tend à présenter toutes ces législations depuis 40 ans comme des acquis irréversibles. À tel point que même des opposants politiques à ces lois, même des députés ou des hommes politiques ou femmes politiques qui ont voté contre ces lois, adhèrent à cette vision de l'histoire. Pire encore, certains intellectuels estiment que la résistance catholique ou religieuse à ces lois n'est qu'une affaire de patience et de temps. Puisque les sociétés évoluent lentement, disent-ils. J'ai écouté une démographe il n'y a pas longtemps sur France Culture, vraiment qui avait une très grande condescendance vis-à-vis de... En gros, les catholiques dans les pays démocratiques sont arriérés, mais parce que quand on est religieux, on appartient forcément à des systèmes de valeurs qui évoluent très lentement. Mais un jour ça va changer. C'est une condescendance terrible parce qu'elle singe le travail de la patience de Dieu dans le temps. Voilà. Parce que nous croyons profondément que même ceux qui aujourd'hui ne voient pas dans l'avortement un crime abominable, Dieu les conduit par cette loi naturelle pour leur faire découvrir dans le temps. Qu'il faudra peut-être effectivement des générations et des générations pour comprendre l'inhumanité au fond de cette pratique. Comme il a fallu des siècles et des siècles pour comprendre l'inhumanité de l'esclavage. Ben là, ça, on retourne l'argument. C'est très très intéressant. Or, ce que je voulais simplement dire, c'est que nul ne connaît la durée de vie des lois civiles comme des civilisations elles-mêmes. Personne d'entre nous n'est capable de dire, et d'ailleurs c'est peut-être le signe des totalitarismes que de se présenter comme des régimes juridiques et politiques qui ont l'éternité pour eux. Puisque Marx prévoyait une société sans classe et sans État et la fin de l'histoire, et Hitler prévoyait un royaume de 1000 ans, qui était une manière de dire qu'il était éternel, évidemment. Vous voyez, nul ne connaît la durée de vie de ces lois, et de toutes les lois d'ailleurs. Et il y a donc un combat, je veux dire, génération après génération. Ce que permet de dire la raison chrétienne, me semble-t-il, c'est qu'une civilisation fondée sur des pratiques inhumaines ne peut pas tenir indéfiniment. Il y aura donc dans l'avenir des événements qui vont le manifester. Nous ne les connaissons pas, nous n'avons même pas d'ailleurs à les provoquer, surtout pas. Mais le rôle des chrétiens pendant ce temps est, je crois vraiment inlassablement, de rendre témoignage en parole et en acte, je veux dire en réfléchissant et aussi par des actes de justice et de charité, en rendant témoignage au fondement absolu de la morale et du droit. Et notamment de rendre témoignage, à la fois en parole et en acte, à l'humanité, à la dignité humaine de ceux qui sont privés de leur droit d'exister par des législations injustes. Je vous remercie. Pardon d'avoir été un peu long.
Je vais prendre ce micro.